Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Pascal Quignard, qui publie Boutès chez Galilée. Dès la fin du Mycénien, la légende courut d'une île mystérieuse sur les rives de laquelle les marins périssaient, attirés par le chant des oiseaux. On racontait que les navigateurs qui passaient le long de ces côtes se faisaient emplir leurs oreilles de cire pour ne pas être déroutés et mourir. Même Orphée le musicien ne voulut rien entendre de ce chant continu. Ulysse le premier souhaita l'entendre. Il prit la précaution de se faire attacher les pieds et les mains au mât de son navire. Seul Boutès sauta. Boutès, Pascal Quignard, c'est un petit livre par son nombre de pages, mais l'un de ses livres, le lecteur s'en rend compte très vite, auquel l'auteur a été contraint.
C'est beau que vous disiez cela. Parce que si vous aviez dit que c'est un livre que j'aurais pu écrire sans me soucier de l'éditeur ou d'être... C'est un livre... Il y a une quinzaine d'années, j'ai publié un livre uniquement en latin qui s'appelait Albucius. Il n'a pas eu beaucoup de succès ou de reconnaissance. Peu importe, je suis très fier de l'avoir publié. Et Boutès, qui est uniquement le monde grec, dans ce cas-là, c'est un peu l'équivalent d'Albucius pour le monde grec. Quoi qu'il arrive, je voulais l'écrire. D'une part parce que j'ai toujours eu besoin, en plus d'essayer de comprendre ce que je ne comprends pas, qui est l'expérience de tous les jours, de pouvoir faire revenir des figures pas forcément méconnues, pas très connues. Ce qui est très curieux dans... Vous lisiez le texte de la quatrième de prière d'inséré. En fait, la question de fond, c'est pourquoi Ulysse a-t-il été ficelé par Périmédès et Eurylochos dans Homère, alors que la musique se présentait? Pourquoi, dans notre histoire, on ne s'offre pas à la musique? Et personnellement, pour moi, pourquoi tout ce que j'écris, c'est mon 9e livre sur la musique, suis-je à ce point offert à la musique? Comme s'il y avait là une dette importante pour moi à régler. Et la figure de Boutès, méconnue, qui qui est le seul qui se dirige vers le champ des femmes, vers le champ premier, vers le champ d'avant même la naissance, est une figure que c'est curieux de dire comme ça, presque honoré d'avoir à l'expliquer.
Vous dites que c'est le 9e livre que vous écrivez sur la musique. La musique est présente dans tous vos livres, on peut dire, y compris dans les romans. Mais cette fois-ci, il y a tout de même un détail qui frappe, c'est que vous annoncez que c'est un dernier petit livre voué à la musique. Et on a un peu de peine à vous croire. Quelquefois, les derniers sont aussi les premiers.
Peut-être, mais c'est écrit sans effet de pathétique. C'est parce que l'énorme ensemble dans lequel je suis plongé, qui s'appelle Dernier Royaume, pour l'instant, il y a eu cinq tomes seulement de publiés. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai à écrire. Aucun ne concernait la musique. Et que là, c'est en effet un livre auquel j'ai été contraint dans la mesure où la musique a réclamé en moi, de même que parfois ces curieux voyages que sont les romans réclament en moi, alors que le fond de ce que je veux faire, c'est quand même ce dernier royaume.
Mmh. Et la musique réclame une place à part. Elle est en dehors du royaume.
Ah, mais dans le fond, vous touchez la chose la plus simple et la plus vraie. Le royaume vient après la naissance. Les arts, c'est vrai que la peinture, c'est vrai, bien sûr, c'est vrai de la littérature, puisqu'il faut au moins avoir 18 mois, 2 ans pour déjà un tout petit peu être gagné par l'infection, si j'ose dire, linguistique, et pouvoir à peu près comprendre les mots que l'on vous a enseignés. Il est vrai que dans le premier monde, là où nous n'avons pas de souffle, nous avons cependant des oreilles et nous éprouvons même la langue, mais tous les sons aussi, et tous les rythmes, et toutes les douleurs, et tous les orages de ce qui se passe de l'autre côté du ventre de notre mère, et que là, nous subissons un premier chant qui n'est pas celui d'un dernier royaume, mais du premier royaume, et qui fait que la musique, dans ce sens, c'est le premier des arts, et peut-être le seul à être uniquement voué à l'émotion.
Pourquoi le moment était-il venu de l'écrire pour vous, à ce stade de votre itinéraire d'écrivain, ce livre Boutesse présenté comme le dernier sur la musique ?
Ça, je ne peux pas vous répondre. Je pense que j'ai en ce moment quelque chose qui m'arrive et qui est assez nouveau pour ma propre petite vie, qui est le fait que je suis soumis à énormément de retours du passé et à énormément de, pas de culpabilité, mais de gêne, de choses inaccomplies, de figures qui me reviennent. C'est pour moi une expérience à chaque fois bouleversante, désagréable parfois, mais toujours agréable quand même profondément, même quand c'est désagréable, que ces retours inopinés dans les rêves, des visages de ceux qu'on a connus enfants et qui sont inéchangés, c'est pas nous qui décidons ces retours visuels. Et de plus en plus, malheureusement, mon père, enfin, mes grands-tantes, mes grands-parents, et là, toute la lignée musicale de ma famille, puisque je suis une famille de musiciens, le fait m'est revenu, en effet, cette grand-tante qui m'avait confié les orgues de l'orgue d'Ancenis, qui était dans la famille depuis bien longtemps. Très beau visage, Marthe Quignard, avec ses petites lunettes cerclées d'acier, comme on faisait avant. La pauvreté de ses destins Comment définir, si j'étais Bourdieu, comment définir ce très curieux statut qu'étaient les organistes dans les petites villes ? Il y en a une centaine, je porte le nom d'une centaine de ces organistes, qui en fait vivaient assez bien à cause de la générosité des mariages, parce que les paysans les honoraient, les paysans plus que les bourgeois, dès qu'il y avait un mariage, et les enterrements aussi, qui vivaient petitement, montant à l'orgue chaque dimanche, qui était l'unique occasion de musique pour ces villages alsaciens, Wurtembergeois, dans le Cadence-Nice, c'est près de Nantes, c'est sur les bords de la Loire, qui était donc, qui allait, convoqué par les aristocrates, faire des quatuors de Beethoven ou de Schubert dans les châteaux, mais ils commençaient par manger à la cuisine. Puis ils allaient dans la salle à manger, ils s'accordaient, et quand arrivaient les invités, ils commençaient à jouer. Vous voyez ce statut à la fois éduqué, cultivé, raffiné, et dans le même temps très, très pauvre. C'est de ce statut-là que je viens, ni classé, ni déclassé, marginal. Mmh.
Mais Boutesse, alors, ça serait comme une reconnaissance de dette ? Vous rendez avec des mots ce qui vous a été donné par la musique.
Oui, et peut-être plus encore, parce que Boutesse, il faut que je raconte le conte, qui est donc très ancien, qui précède donc celui d'Ulysse. 30 secondes à Alain, il faut que je raconte le conte, qui donc s'est mentionné par Homère. Homère, c'est vers moins 800 que ça a été écrit. Donc maintenant, nous sommes en... ce conte de Boutesse doit dater de 3 millénaires. C'est une vieille histoire. Où c'est l'épisode des Argonautes, où 50 marins, les Argonautes, sur le navire Argo, partent à la recherche d'une vieille toison. Toute personne qui est née sur Terre sait ce qu'est une vieille toison. Même d'or, c'est forcément le premier monde. Ils partent à cette recherche et ils passent devant l'île des sirènes. Ils sont attirés par le chant des oiseaux, qui sont les sirènes. Les sirènes, c'est un mot grec, seira, seirène. Ser, c'est le lien. Ce sont les lieuses, ce sont celles qui attirent jusqu'au lien. Et à quoi répondra plus tard, en effet, Ulysse, en prenant sur lui le lien ? Mais dans le cas des Argonautes, ils s'approchent. Orphée, qui est un des Argonautes, se précipite sur le pont, sort, si j'ose dire, tire à lui, pose sur ses genoux la carapace de tortue sur laquelle il a mis 9 cordes, il n'y en avait que 7 avant, et qu'on appelle une cithare ou une lyre, peu importe le mot en grec, et avec son plectre, fait un bruit du tonnerre et un rythme du tonnerre pour que les marins se ressaisissent, ne jettent pas l'ancre, relancent, retirent les voiles et repartent pour s'éloigner du chant des oiseaux. Tous repartent. Soudain, l'un d'entre eux, qui s'appelle Boutesse, quitte le rang des rameurs, monte sur le pont, saute dans la mer et va rejoindre le chant. C'est l'unique figure grecque de celui qui s'offre à la musique. Mais dans son propre mouvement, quitter le rang des rameurs, socialement, ça a aussi un sens très profond. C'est le fait de ne plus accepter le jugement du groupe, la légende ordonnée, l'histoire, la répétition, la compulsion de répétition horrible de l'histoire. En ce moment, on voit bien aussi en Europe combien les conditions du plaisir de la guerre continuent de se répandre dans l'affaire de la Géorgie actuellement. Il y a une possibilité, dès l'origine des temps, dès les premiers chamans, a consisté à peut-être se séparer du groupe. Et là, que la musique soit liée, que celui qui s'offre à la musique soit lié au fait de bondir du rang des rameurs, à quelque chose qui me paraît très touchant.
Et qu'elle soit liée aussi au chant qu'on essaye de retrouver de ces oiseaux invisibles.
Au chant continu, c'est le mot qu'emploie Apollonios de Rhodes quand il raconte l'histoire de Boutesse, mais inévitablement soprano. Et là, pour moi, c'est un mystère qui fait que je crois qu'on peut poser, c'est pour ça que c'est une longue méditation sur la musique, une des choses pour moi dont je suis le plus sûr maintenant, c'est que la musique n'est pas forcément liée, en partie liée au maternel, mais surtout liée au féminin, dans la mesure où, en effet, il y a quelque chose de profondément soprano, avant tout, qui attire dans la musique. Thank you.
Boutès, Pascal Quignard, c'est tout de même une figure assez méconnue, un peu oubliée par rapport à d'autres, comme Orphée ou Ulysse.
Je pense que c'est une définition de la musique qui s'est donnée dans la Grèce ancienne et qui est parvenue jusqu'à nous. Qui fait, et alors là, ça me permet aussi de méditer sur cette opposition que Apollonios présente très simplement entre le musicien qui s'assied et qui a une musique qui ordonne le retour, qui ordonne le mouvement des rames, qui ordonne une espèce d'harmonie puissante et qui explique ce véritable mystère dans notre civilisation qui fait que nous écoutions la musique assis, dans une espèce d'inhibition musculaire, un peu comme lorsque nous rêvons, où ça suppose que notre corps soit étendu et sans mouvement. Il y a une hypnose, pour prendre un mot de Karl Marx par rapport à la religion, qui serait propre de la musique occidentale. Et ce mouvement que précisément, que fait Boutès ? Il saute de son rang, il saute du pont, il se lance dans la mer. C'est de la danse à l'état pur, c'est définir par rapport à Homère, donc en moins 800, définit la musique comme un désir d'écouter à l'état pur. Et je crois très profondément Apollonios et Boutès définissent la musique comme un désir d'approcher, un désir de se dresser dans l'émotion même. Et la danse n'est pas encore disjointe de la musique, dans le cas de Boutès. Et c'est peut-être une façon de se venger. La position, je me souviens longtemps dans les concerts, combien ça m'était pénible, jusqu'à des transpirations soudaines. Le fait de ne pas devoir marquer, ni par les pleurs, ni par le mouvement du corps, de rester figé parmi les rangs, c'est pas les rangs des rameurs, dans ce cas, c'est les rangs des auditeurs, d'être tous figés comme ça, alors que les larmes voudraient ruisseler sur le visage, se tenir dans une immobilité que la civilisation, que l'habitude des concerts, à laquelle elle nous contraint, ce qui n'existe absolument pas dans le monde indien, ou dans le monde africain, ou dans d'autres mondes.
Écouter de la musique, c'est se jeter à l'eau.
Écouter vraiment de la musique serait se jeter à l'eau. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que se jeter à l'eau. Quitter le rang des rameurs, se démissionner est une façon de se jeter à l'eau. Lorsque César, je ne l'ai pas dit dans ce livre, lorsque César franchit le Rubicon, on se souvient que Alea Iacta Est, il jette les dés, il a le sentiment de jeter les dés, mais la première image dont on ne se souvient pas, il dit qu'il est comme un plongeur qui hésite à se jeter, à se précipiter dans ce petit fleuve minuscule qu'est le Rubicon.
Donc écouter de la musique, c'est passer par-dessus bord.
Oui. Il y a quelque chose qui est à la limite de la mort, il y a quelque chose qui est de l'ordre du suicide, même si l'on prend l'image de Boutès. Et je fais dans ce livre, je pense à Sappho qui s'est jetée elle aussi du promontoire. Je pense à tous ceux qui ont été poussés aussi dans les mythes étrusques. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des plus belles peintures, je trouve, du monde grec, qui était conservée, qui a été retrouvée en 1968 près de Capri à Paestum, et qui est ce plongeur de Paestum qui se tend comme ça, qui se jette dans l'eau. La première figuration...
D'eau d'un sarcophage.
D'un dos d'un sarcophage. À l'intérieur, comme... Là, il y a plusieurs explications possibles pour cette scène du plongeur. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la peinture, c'est que quand on n'en a pas les récits, on n'en a pas de sens, et que dans ce cas-là, le plongeur de Paestum est aussi inatteignable et aussi puissant que ce premier homme figuré à Montignac dans la grotte de Lascaux, qui tombe en arrière dans une extase, que la première figuration humaine soit celle d'un homme en extase qui tombe, érigé, et dont le visage n'est pas humain, mais était une tête d'oiseau rapace. On a déjà presque là une préfiguration de ce chant des sirènes. Le premier homme de Montignac, du puits de Montignac, est presque une sirène.
Voilà donc Pascal Quignard qui écrivait tout un livre à partir de cette figure méconnue, oubliée de Boutès, oubliée comme ses langues aussi, ces mots auxquels dans vos livres vous avez l'habitude de porter l'attention. Et cette attention ne doit pas faire de vous un passéiste ou quelque chose comme ça. Il y a dans le livre d'ailleurs quelques lignes que j'aimerais bien souligner pour mettre les points sur les i. Justement, vous parlez des rameurs, c'est-à-dire de nous, aujourd'hui, qui sommes dans la société. Et vous dites « Jamais le goût inerte et nostalgique et pour ainsi dire muséal de la majorité n'a imposé une loi plus jalouse sur les vivants. La plupart des humains de nos jours écoutent de la musique qui date d'il y a au moins 2 siècles et collectionnent ce qui paraissait moderne à leurs arrière-grands-pères. Dans les États où le plus grand nombre a l'ascendant, toute valeur est aïeule. » J'ai assez ouvert de livres pour savoir qu'aucune autre époque ne présente de ressemblance sur ces points avec la nôtre. La servilité et l'identité, qui sont des liens, prévalent sur la liberté et l'aventure, qui sont moins des possessions que des ivresses. J'avais imaginé une ruse afin de renoncer à faire de l'empreinte un destin. La thèse que je défendais vaille que vaille consistait à penser qu'il était possible qu'en s'appuyant sur beaucoup plus ancien que l'histoire, on pût se soustraire un peu à la répétition compulsive de son passé.
Si ça pouvait être vrai. Si ça pouvait être vrai. Mais...
Ça a l'air vrai. On s'y retrouve,
oui,
en tout cas.
Oui, oui. Mais je pense, je ne sais pas si on peut vraiment quitter l'histoire, mais je le pense, la musique fait quitter l'histoire. Elle ne prend pas le temps comme répétition, elle prend le temps, comment dire, pour jouer autour, pour diviser, pour, comment dire, pas orner, déchirer plutôt la répétition. Mais dans ce que vous dites, il y a quelque chose, c'est vrai aussi de la littérature, hein, c'est vrai aussi de la peinture. Parce qu'il ne faut pas, croire, comment dire, que Van Gogh ou je ne sais quoi sont les peintres modernes, ça n'est pas. Même si on fait des queues considérables à Amsterdam, comme si on allait à des messes gigantesques. Si vous, j'ajoute une chose par rapport à ce livre. Je comptais ne pas écrire cette rentrée parce que j'avais fait paraître un livre, La nuit sexuelle, l'an dernier, pour lequel j'avais voulu me aller en librairie, donc je me sentais un peu fatigué. Je disais à Michel Delorme, qui dirige les éditions Galilée, que non, cette année, je pensais que j'allais me reposer et ne pas. Il m'a dit qu'il n'en était pas question, que, évoquant le nom de Nicolas Sarkozy, très clairement, que l'on ne pouvait pas laisser dans un état, comment dire, jamais dans l'histoire nationale, la vulgarité, l'absence des lettres avait été aussi grande, et qu'il fallait à tout prix que dans ce cas-là, les lettrés ne se taisent pas. Et qu'il était un devoir pour moi de publier un livre. J'ai trouvé ça très gentil, puis après j'ai trouvé ça pas forcément faux. Je me suis dit, bon, et ben pendant 5 ans, je vais publier un livre par an. C'est une façon, comment dire, de défendre les lettres grecques ici, ou les grecques chinoises là, ou les grecques... il y a une façon de déchirer, comment dire, une loi de masse prenons le mot profond, peut-être même plutôt que compulsion de répétition, disons réaction. Il y a quelque chose de la réaction qu'il faut déchirer. Mmh. Et dans ce cas-là, les lettrés sont ceux qui déchirent lettre à lettre les mots qui veulent se prendre pour des mots.
Et là, vous avez choisi, pour commencer, l'art le plus ancien.
Mais là, je me suis laissé, je vous dis, guider par ces devoirs que créent dans les rêves les personnes qui ne reviendront jamais, qu'on ne peut même pas expliquer à ses enfants ou à ses petits-enfants, qui sont ceux qu'on a connus et auxquels quelque chose se dévoue en nous. Je ne sais pas d'où vient cette... Je suis vraiment un homme très irreligieux. Je n'aime pas non plus ces liaisons contraignantes, très proches de la liaison sociale qu'est celle de la religion. Mais il y a une piété en moi plus grande que tout par rapport aux morts. Je ne sais pas si la littérature est vouée à ça, mais moi, pour moi, elle l'est, dans la mesure où faire revenir l'oublié, faire revenir le visage qui se présente à vous par le biais du rêve. Pourquoi y a-t-il d'ailleurs cette incroyable, de même que le cœur de la terre se soulève dans les volcans et peut parfois soudain ruisseler sur, détruire les vignes et ruisseler jusqu'à la mer. De même, il y a comme cela une puissance nocturne chez nous qui peut faire revenir des hommes ou des femmes que nous avons aimés, neufs comme au premier jour. Même il m'arrive de voir des personnes que je n'ai pas pu connaître jeunes, comme mon arrière-grand-mère, et de les découvrir toutes jeunes dans mes rêves. Il y a une puissance incroyable, rénovatrice. Il y a un printemps, ce que j'appelle le jadis parfois, il y a un printemps très puissant en nous.
Vous semblez là faire une distinction entre la musique et la littérature, et pourtant, longtemps, c'est en lecteur que vous avez abordé la musique. Vous préfériez lire des partitions plutôt que d'écouter la musique.
Mais les lecteurs de livres ne peuvent que me comprendre. On raconte que Jacques Derrida, quand il avait entendu pour la première fois René Char, avait été horriblement déçu. C'est-à-dire qu'il faut parfois lire muettement. Il faut parfois lire, même chose pour la musique que pour la littérature, pour ne pas avoir d'autre accent que l'accent, comment dire, créatif qu'il y a été, pas du tout l'accent biographique, qui est le hasard d'un accent du Midi ou d'un accent... Il est vrai, si l'on songe à des œuvres difficiles à interpréter, qu'il vaut mieux ne pas lire telle page de Bach parfois même, ou de Rameau, pas plus qu'il ne faudrait écouter le CD sur lequel Michel de Montaigne, avec un accent périgourdin digne de l'accent bourguignon de Colette, lirait un extrait des Essais. Ça vous choque ce que je dis? Mais il y a je pense maintenant même qu'il y a dans ma passion pour la lecture des livres quelque chose de l'ordre de la musique. Parce qu'on entend en lisant des livres des rythmes et une sonorité continue, pas forcément soprano, pas forcément les sirènes, mais quand même des sortes de sirènes très lointaines qui font pas que dans la poésie, certes, mais aussi dans les œuvres littéraires très écrites, survenir un chant qu'il vaut mieux ne pas entendre, mais qu'on entend quand même.
C'est dans la musique que se retire la vie secrète.
Dans les livres aussi. Je réfléchis parce que c'est une question très difficile que la vôtre. La vie secrète est une vie qui veut aller plus vite que ce que la communication permettrait. Elle veut sentir, elle veut ressentir, au plus vite la musique le permet. Mais il faut... Là où la musique est difficile, c'est qu'elle ne sait pas, et surtout de nos jours, baisser le son, faire retirer du monde, comme le peut par exemple un livre. Mais au moment le plus extrême, en effet, la musique a besoin d'être là parce que là, le continu peut revenir. Là, en effet, on peut plonger. Là, l'abîme peut revenir. Mais on ne peut pas, comment dire, être sans cesse en état d'abîme. Il faut d'abord se retirer, un peu comme je songe tout à coup à Machiavel. Lorsqu'il avait à lire, il rentrait chez lui, il changeait de robe ou de toge, je ne sais pas où juste, comme on est habitué au XVIe siècle, de pourpoint, et il retirait son épée, il s'habillait exprès pour pouvoir lire. Il faut d'abord lire et ensuite écouter de la musique.
Sans la musique, vous le dites dans Boutesse, certains d'entre nous mourraient.
Oui. Ah, je pense que c'est une invention qui n'est pas humaine. Je me lève très tôt et je Je sais que quand on entend toute la symphonie progressive des oiseaux, puis des chats, puis des... Il y a, comment dire, une fonction d'appel dans la nature, très mystérieuse, qui dit par un miaulement, qui dit par un chant, je suis là. Je sais pas, on ne sait pas très bien ce qui est dit par ce chant, par ce... Il y a une position invocatrice, non productive, c'est ça qu'il faudrait que les politiques comprennent, et qui, de même, par exemple, la poésie ou la vraie littérature est improductive. Il y a une fonction comme ça qui appelle, qui est quelque chose, et qui est vitale.
Qui attire le corps.
Ou qui n'attire pas, elle peut aussi ne pas attirer, mais qui dit simplement... qui dit simplement quelque chose qui s'offre à l'attention. C'est très risqué pour un oiseau, pour un chat, pour un humain. C'est très risqué de signaler que l'on existe par un morceau de voix ou par un morceau de chant. Si l'on était très prudent et qu'on avait vraiment, comment dire, la coutelle des proies en craignant leurs prédateurs, on se tairait tous. Mais non, plus fort que tout, il y a ce besoin d'un chant qui nous fait même crier en naissant.
Mais qui peut nous laisser sans voix, sans identité.
Ah, il n'y a aucune idée. Si la recherche d'identité, c'est des problèmes du langage, c'est de la société. Je n'ai jamais pensé que l'art pouvait être une réalisation personnelle. Je pense que c'est beaucoup plus risqué, en effet, beaucoup, beaucoup mieux veillant, bienveillant. C'est là où on peut abandonner les rôles. Le nom, le prénom, le genre, on peut tout laisser tomber. Et ne plus savoir, bien sûr, dans ce cas, comme le premier homme figuré à Montignac, est-ce qu'on est oiseau, est-ce qu'on est homme ?
Vous dites que la musique pense, et vous racontez que vous avez, un beau jour, pris la décision d'abandonner la philosophie. Vous prépariez une thèse sous la direction d'Emmanuel Lévinas. Vous êtes venu le voir pour lui dire que vous abandonniez pour vous consacrer à la musique.
Il n'était pas d'accord du tout. Mais il faut dire l'époque, c'était en 1968, et là il y avait, comment dire, dans le mouvement de mars et de mai, une volonté de rupture avec, que je partageais totalement. Qui est d'ailleurs très étrange, comme un parti. Il y avait un moment, là, je sais que je n'étais pas le seul et que d'autres ont pris de tout autre risque que moi. Je songe à Robert Linard, toi, d'autres. Mais il y avait une volonté, en effet, de dire adieu, de partir, qui est une volonté très mystérieuse qui a fait, de toute façon, le taoïsme, qui a fait le bouddhisme, qui a fait une grande part du christianisme au début. Mais c'est très différent de ce que l'on peut dire par le fait, je reviens sur votre notion que la musique pense.
Elle pense là où la pensée a peur, oui. Écrivez-vous.
Mais là, on peut écouter la musique vraiment pour penser. Pour penser. Il y a dans la pensée quelque chose qui veut créer un lien entre deux états, entre deux émotions, entre une perte, entre une disparition, entre un visage qui est parti, quelque chose qui va revenir. Bon. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du maternel dans la pensée. On ne penserait pas si l'on était, comment dire, sûr de la présence de celle qui permet de survivre ou de donner à manger. Le sens n'est que là. Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin ce que peut être le sens philosophiquement. Dans cette possibilité d'être nourri, de survivre. Et lorsqu'on prend l'expérience, les expériences donc primordiales, toutes, je dirais, la pensée linguistique ne saurait les retraduire parce que le langage n'existait pas au moment où elles se sont produites, ces expériences. Mais les sons, les nappes de sons et de rythmes émotifs existait avant même de naître, au moment de naître. Et les détresses, la détresse première, celle que Freud appelait « Ilflossigkeit » ou des choses comme ça, cette possibilité de se ressentir sans défense, sans personne, dans une panique totale. Là, Il n'y a, dans le cas de cette détresse originaire, visiblement c'est Schubert qui pense ça admirablement. Mais sans Schubert, je pense profondément, ce n'est pas avec Spinoza ou avec Aristote qu'on aurait pu penser ces états-là. Ces états de déréliction, ces états d'émotion pure, sont pensables par la musique et par personne d'autre. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire par là ?
Et le penseur en la matière, c'est Schubert.
C'est Schubert. Et ce sont des pensées, un peu qui avait été pressenti, Pline a des très beaux passages sur la détresse originaire. Mais sans lui, on n'en a pas l'amplitude. Et cette amplitude, elle est sonore, comme le langage, mais elle fait appel à un langage plus ancien que le langage pour penser ce qui est le plus ancien que le langage.
Boutès, le livre de Pascal Quignard, est publié chez Galilée. Du jour au lendemain, Marie-Thérèse Ferrand, Angélique Thibault, Alain Weinstein. Bonsoir.